bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je vais présenter les trois intervenants de cette troisième séance maintenant. Donc, on va avoir le plaisir d'entendre Bertrand G, Gérard Nérand et Étienne Douat. Bertrand G, pour le présenter rapidement, est professeur de sociologie à l'université de Picardie Jules Verne. Il me semble que l'originalité de son travail consiste à avoir réussi à tenir ensemble sociologie politique et sociologie de l'école ou sociologie de l'éducation. Je ne vais pas m'étendre longuement sur cette présentation des auteurs, mais on peut citer en tout cas relativement au thème qui va être abordé et à cette question de l'articulation entre sociologie politique et sociologie de l'école, deux ouvrages de Bertrand G. Qui borne en plus en quelque sorte son parcours. Donc un ouvrage publié en 1999 intitulé « Profession instituteur, mémoire politique et action syndicale au seuil ». Et puis un ouvrage beaucoup plus récent qui est une direction d'ouvrage en 2009, « La protestation étudiante, le mouvement du printemps 2006 aux éditions Raison d'agir ». Gérard Nérand est professeur de sociologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il travaille sur la sociologie de la petite enfance et de la jeunesse, sur la sociologie du couple, sur la sociologie de la parentalité, et plus globalement, pardon, sur les mutations familiales ainsi que sur leur rapport aux politiques sociales. On peut citer là aussi deux ouvrages. En 2006, un ouvrage publié aux éditions La Découverte intitulé « Faut-il avoir peur de nos enfants ?» et un second ouvrage beaucoup plus récent, en 2009, intitulé « Le dialogue familial ». Et puis enfin, Étienne Douat, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Poitiers, dont le travail concerne l'école et les politiques scolaires, et notamment la question de l'absentéisme dont il va nous parler aujourd'hui. Il a notamment publié un article important sur la question dans la revue « Déviance et société » en juin 2007, intitulé « La construction de l'absentéisme scolaire comme problème de sécurité intérieure dans la France des années 1990-2000 ». Voilà, je leur laisse la parole en rappelant simplement que nous avons prévu 20 minutes de parole. Voilà.
Rebonjour. Jeudi 25 mars, donc c'est hier, je crois, j'ouvre mon journal préféré, Le Figaro, et je lis le compte-rendu du Conseil des ministres de mercredi dernier, et notamment de l'intervention du président de la République qui a suivi le Conseil des ministres. Et qu'est-ce que je vois ? Ce discours volontariste est ensuite appliqué à évoquer quelques mesures précises, deux points, citation. « L'absentéisme scolaire est un fléau », a affirmé Nicolas Sarkozy. « La responsabilité des parents doit être engagée. Les sanctions en matière d'allocation doivent être effectives. Les jeunes qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale seront placés dans des établissements adaptés où ils ne perturberont plus la vie des autres et où ils feront l'objet d'un accompagnement spécifique. » Suivent un certain nombre d'autres commentaires, etc. Ce que je voudrais essayer de faire rapidement, en 20 minutes, je vais essayer, c'est de nous s'interroger ensemble sur ce que fait Nicolas Sarkozy quand il fait cela, quand il profère ce type de discours. Et l'hypothèse, c'est que ce qui se joue dans l'ordre scolaire a quelque chose à voir avec ce qui se joue dans les formes de maintien de l'ordre social d'une façon beaucoup plus générale. Donc pour ceux qui ont entendu la conférence de Loïc Vacant hier soir, vous retrouverez quelques parentés dans la façon dont je souhaite aborder cette question avec peut-être quelques spécificités. Alors quand je dis ce qui se joue dans l'ordre scolaire a quelque chose à voir avec ce qui se joue dans les formes de maintien de l'ordre social en général, je le fais d'une façon un peu vague à dessein, parce que pour une part, et c'est ce que je voudrais essayer de montrer, ce qui se joue dans l'institution scolaire est pour une part homologue ou dans la continuité avec ce qui se passe d'une façon plus générale, mais à quelque chose de spécifique. Les deux formes que cela prend, la part plus spécifique, la part plus homologue ou en continuité avec ce qui se joue à une échelle plus générale, contribuant à cette économie générale du gouvernement des classes populaires. Alors d'emblée, pour bien me faire comprendre, je voudrais préciser ce en quoi ne consiste pas ma démarche. Tout d'abord, La thèse que je souhaite défendre n'est pas de dire qu'on assisterait à une forme de régime, de l'instauration d'un régime généralité de la sanction, puisque dans les mesures dont il va être question et dont Étienne reparlera, je suppose, il y a beaucoup de social, il y a beaucoup de social au sens commun du terme, il y a beaucoup de préoccupations sociales, il y a beaucoup de préoccupations éducatives. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on passe en quelque sorte dans un ordre autoritaire et répressif tous azimuts. Il ne s'agit pas de dire non plus, et j'essaierai de le préciser, qu'on assisterait à une forme de judiciarisation absolue de ce qui se joue dans l'ordre scolaire. Alors il y a bien des phénomènes de judiciarisation, mais ils ne jouent pas forcément exactement comme on peut le penser spontanément. Il ne s'agit pas non plus, en tout cas pas seulement, d'une opération de tri social, même si la déclaration de Nicolas Sarkozy, effectivement, nous le fait penser. En tout cas, il est bien question d'ordre social, et d'une certaine façon, on assiste bien à une version contemporaine, une nouvelle version de la reproduction, en quelque sorte, sur un modèle plus répressif, d'une certaine façon, avec un parfum un peu policier. Mais en même temps, il faut s'interroger sur l'acte de parole qui consiste à désigner comme ça, à la vindicte publique, ceux qui seraient les perturbateurs d'école. Et l'effet de ce discours en propre est aussi à analyser. Dernière chose, il ne s'agit peut-être pas non plus exactement d'un projet délibéré, de quelque chose qui serait totalement repérable dans les politiques scolaires, dans les intentions en matière de politique scolaire, et que l'on verrait se déployer au fil du temps. Alors que c'est par exemple le cas en matière de programmes scolaires ou en matière de direction d'établissement, par exemple, où on a bien des intentions qui sont proclamées assez tôt dans les commissions gouvernementales et que l'on voit peu à peu revenir au fil du temps. Avec tout ce qui tourne autour de l'ordre scolaire, on a davantage à faire à ce que Foucault appelait des techniques de pouvoir, c'est-à-dire que se mettent en place des dispositifs, des discours, mais d'une façon souvent assez spontanée, je vais y revenir, mais sans forcément que les intentions aient été clairement délibérées et annoncées précocement. Et je pense que ça a du coup quelque chose à voir plus largement avec les formes que prennent les techniques de pouvoir, et donc que l'on peut saisir davantage à un niveau intermédiaire en regardant ce qui se passe, en regardant les discours qui sont tenus par les acteurs, au moins autant qu'en regardant les projets en matière politique qui sont appliqués à l'école. Donc aborder les choses de cette façon-là, ça suppose donc que l'on saisisse à la fois la spécificité de l'institution scolaire et en même temps la façon dont elle s'inscrit dans l'organisation générale d'une façon plus large. Puisqu'on a parlé de Durkheim plusieurs fois, j'utilise à dessein ce terme d'organisation sociale. Et pour le saisir, pour comprendre ce qui se joue dans cette spécificité de l'institution scolaire, dans sa contribution à la production des formes de maintien de l'ordre social, il faut, je pense, faire référence à cette distinction qu'a introduite Bourdieu, qu'a reprise Vacan également, et dont il a parlé hier, entre la main gauche et la main droite de l'État. Avec cette particularité, et c'est cela que je voudrais introduire, que l'école, évidemment, se situe du côté de la main gauche de l'État. Mais il me semble utile de montrer qu'une fois qu'on a dit cela, et ce qui a beaucoup d'effet sur la nature des dispositifs qui vont être mis en place, en même temps, on a intérêt à regarder aussi l'école en tant qu'elle est elle-même partagée entre une main gauche et une main droite, en quelque sorte, entre un pôle qui est plus préoccupé de la transmission des savoirs, de la promotion de l'enfant, etc., et un pôle qui se préoccupe davantage du maintien de l'ordre scolaire. Alors, pour entrer un peu dans le sujet, j'organiserai, si je le peux, mon propos en trois points. Tout d'abord, je voudrais parler de ce qu'est le maintien de l'ordre scolaire d'une façon ordinaire, dans la mesure où se centrer uniquement sur les nouveaux dispositifs irait dans le sens de cette erreur que je signalais tout à l'heure, qui porte à croire que tout ce qui est en train de se mettre en place est en train de phagocyter l'école, et que ce qui se joue dans la question de l'ordre, c'est uniquement ce qui est en place dans les nouveaux dispositifs. En réalité, depuis que l'école existe, elle se préoccupe de sa propre stabilisation sociale, en quelque sorte de sa propre reproduction, et elle s'est dotée de tout un système de sanctions, de réprimandes, de châtiments corporels autrefois, et depuis l'école républicaine, d'un ensemble d'institutions qui lui permettent de maintenir l'ordre au quotidien. cette institution républicaine, notamment, qui s'est créée au début de la Troisième République et qui a perduré jusqu'à nos jours, c'est notamment le Conseil de discipline. Donc on peut évoquer rapidement ce qui se passe dans les conseils de discipline, la façon dont ça fonctionne, pour comprendre comment, d'une façon la plus ordinaire, se met en place ce type de fonction dans l'école d'aujourd'hui. Alors les conseils de discipline, quand on les regarde d'assez près, sont en fait un assez bon analyseur du fonctionnement des établissements scolaires et du fonctionnement de l'institution scolaire d'une façon plus générale. Dans la mesure où, quand on réunit le conseil de discipline, on a face à face des élèves, des professeurs, un chef d'établissement, donc un groupe, un pôle qui représente en quelque sorte l'institution et qui la représente au sens fort du terme, puisque un des enjeux de la réunion du conseil de discipline, c'est de faire transparaître, de faire figurer, de mettre en scène en quelque sorte l'institution réunie à travers ses représentants et face à elle, l'élève et éventuellement quelques personnes qui peuvent venir l'assister. Ces élèves, ces profs, ces chefs d'établissement ont eux-mêmes chacun des caractéristiques sociales et évidemment les conseils de discipline ne s'appliquent pas de façon tout à fait anodine du point de vue des caractéristiques sociales de ceux qu'elle est amenée à traiter. Et donc, de ce point de vue-là, il se dit dans les conseils de discipline quelque chose de plus que sur l'affaire elle-même, puisqu'il se dit aussi ce que doit être l'institution scolaire et, pour faire vite, de quelle façon, à travers le conseil de discipline, en fait, l'enjeu principal consiste à rétablir l'autorité pédagogique du corps professoral par le biais de cette institution transfigurée, représentée, mise en scène dans le dispositif lui-même. Alors, cela étant dit, cette institution, elle a des caractères très ambigus, et c'est intéressant d'y regarder d'un peu plus près. Elle se présente comme, les juristes diraient, comme une façon de singer le droit, hein, puisque ce n'est pas très encadré du point de vue de la fabrication même de la décision juridique, si on veut. En même temps, ça fait quand même l'objet d'un certain nombre d'une réglementation, donc c'est quand même quelque chose qui est encadré par le droit, mais qui ressemble d'assez loin au fonctionnement du droit ordinaire. Et en fait, ça ressemble assez à ces institutions moins connues que sont les conseils de discipline dans les entreprises, et qui fonctionnent un peu sur le même type, qui sont des institutions qui sont un peu ambiguës, mixtes, puisqu'elles empruntent à la fois au registre un peu domestique, en quelque sorte interpersonnel, des gens qui se connaissent et dont il s'agit de rétablir les relations ordinaires, d'interconnaissance, et des institutions qui sont plus basées sur la légalité, sur le droit, sur la rationalité, comme il en est question avec les institutions judiciaires proprement dites. Donc c'est une institution un peu particulière. Elle singe le droit non seulement dans le dispositif lui-même, mais aussi dans la structuration. En tout cas, depuis ces dernières années, on a vu se mettre en place et se déployer une institution à trois niveaux, puisqu'on a le conseil de discipline, mais on a aussi, donc de longue date, mais le fonctionnement s'est activé au cours des dernières années, les commissions d'appel au niveau académique, et puis on a un niveau infra, avec les commissions de vie éducative, où ça peut prendre différents noms selon les établissements, et qui souvent font une espèce de justice de paix, en quelque sorte, ou de préventive, en quelque sorte, avant que l'élève puisse passer en conseil de discipline, mais qui peut très bien prononcer, par exemple, une exclusion temporaire. Donc on a une espèce de justice à trois instances, en quelque sorte, même si elle ne répond pas à toutes les formes du droit. Bon, il faut que j'avance. Quelques mots, bien évidemment, comme vous vous en doutez, donc je ne serai pas très long là-dessus, on retrouve dans les conseils de discipline beaucoup plus d'élèves de ZEB, de milieux populaires, qui trouvent là une façon de gérer les problèmes qu'ils ont suscités dans les établissements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le conseil de discipline se réunit toujours de façon assez prévisible. La très très grande majorité, je crois que c'est 90% des cas dans une enquête qu'on a menée en Picardie, la très grande majorité des cas, les conseils de discipline se réunissent pour prononcer des exclusions définitives. Et compte tenu du dispositif lui-même, des chances qu'a l'élève de s'en tirer, en quelque sorte, en fait, la messe est déjà dite avant que les protagonistes soient réunis. Et donc l'enjeu, en fait, des conseils de discipline est souvent autre, puisqu'il s'agit surtout d'essayer de faire en sorte que l'élève fasse amende honorable. Donc il y a quelque chose dans le conseil de discipline qui est de l'ordre de la parole, de l'élève, de l'accompagnement de la parole, et bien évidemment les décisions pourront être modulées si l'élève arrive à rentrer dans cette attitude de soumission qui est attendue de lui à ce moment-là. Ou quand bien même l'exclusion définitive serait quand même prononcée. On l'accompagnera peut-être d'une façon différente après que la décision ait elle-même été prise. Ce type de dispositif, la façon dont ça fonctionne, le fait même que les professeurs, le corps enseignant soient très fortement représentés parce qu'il s'agit bien de faire en sorte que ce soit l'institution et le caractère interpersonnel de l'institution qui soit transfiguré dans cette institution, n'allait pas de soi. Quand l'institution a été mise en place à la fin du 19e siècle, au début de la Troisième République, il y avait tout un débat. Il y avait un débat notamment sur le développement du self-government dans les établissements scolaires, avec l'idée qu'on allait se référer à la loi, qu'on allait se référer au droit, pour en finir avec la vieille logique d'Ancien Régime, des châtiments corporels, etc., et faire advenir la République dans l'éducation nationale. C'est pas cette logique-là qui l'a emporté, c'est plutôt la logique à la Durkheim, la logique à la Duguid, c'est-à-dire la logique de ceux qui pensaient que c'était une bonne chose en soi que s'exprime dans le conseil de discipline toute l'autorité personnelle, toute la relation interpersonnelle qui existe dans la situation scolaire, de telle sorte que ce moment particulier puisse être à nouveau un moment d'éducation et refondateur par rapport à l'acte d'enseignement. Je ne développe pas, il faut que je passe. Deuxième point, les reconfigurations en cours. Donc l'essentiel, on pourrait dire, de ce qui se passe dans le maintien de l'ordre scolaire actuellement, se joue dans la vie scolaire, dans la salle des pions et du CPE, dans les bureaux de la vie scolaire, dans la gestion de l'absentéisme, des petites incartades au quotidien, etc., et dans les classes aussi, avec les perturbations d'élèves et le fait qu'ils puissent être envoyés en études, qu'ils aient des punitions, etc., etc., et donc jusqu'au conseil des disciplines et éventuellement à la commission d'accueil. Pour autant, un certain nombre de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouveaux dispositifs se sont mis en place depuis une vingtaine d'années. Alors ces nouveaux dispositifs, ils portent à la fois sur les rapports qui existent entre l'institution scolaire et d'autres institutions. C'est ça l'élément nouveau. L'institution scolaire entretient de longue date des relations avec le secteur social environnant de l'école, mais ces nouveaux dispositifs vont créer des relations continues avec la police et la justice. Deuxième élément nouveau qui va être introduit par ces nouveaux dispositifs, le fait que soient créés des dispositifs spécifiques pour les élèves déviants, notamment les classes relais, par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, en tout cas des dispositifs qui poursuivent aussi une autre fonction, c'est-à-dire à la fois une fonction de prise en charge des élèves, de séparation des élèves perturbateurs des autres élèves, et en même temps d'un accompagnement vers le marché du travail. Troisième évolution, la question de la visibilité même de la perturbation scolaire. Ces dispositifs, et avec eux les dispositifs de signalement, la remontée des signalements au niveau de l'inspection académique, ce qui ne se faisait pas antérieurement, a aussi comme effet de rendre visible et d'en faire même un indicateur du management des établissements qui peut être comparé sur l'échelle d'un département. Alors, je ne vais pas développer l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place depuis les années 90, ce serait un peu long, mais pour le dire d'un mot, ces dispositifs ont deux sources en réalité. Au départ, deux sources même assez distinctes. Une première source, c'est tout ce qui relève de la lutte contre les violences et l'absentéisme, et donc là, les politiques de référence, ce sont plutôt les politiques de tolérance zéro. Donc il s'agit de sanctionner directement, de signaler, de voir ce que deviennent les élèves sanctionnés, éventuellement d'aller jusqu'au processus judiciaire, le rappel à la loi, etc., etc. Et puis il y a une autre source qui est les politiques d'insertion qui se développent à travers les missions locales, les PAIO, etc. à partir de la fin des années 80. Et dès le rapport Schwartz en réalité, et dès les années qui suivent, la question d'une intégration de l'éducation nationale à ce type de dispositif est posée. Donc dans un premier temps, plutôt sous une forme collaborative interinstitutionnelle. Et puis, très rapidement, on va créer une institution spécifique à l'intérieur de l'éducation nationale, la mission générale d'insertion, qui aura comme mission à la fois d'organiser le comptage des absentéismes, de mesurer, d'apprécier, de suivre ce que deviennent les élèves qui sont exclus et comment ils passent, comment ils échappent ou non. Donc c'est un des dispositifs de panoptique, on pourrait dire, enfin de surveillance de l'évolution des élèves quand ils échappent à la scolarisation, et puis des dispositifs de prise en charge de façon individualisée, dans des groupes où on va, sur le modèle d'ailleurs des stages d'alternance, essayer de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent à la fois acquérir des compléments de formation et en même temps se préparer à l'insertion professionnelle. Ces deux types de dispositifs vont en réalité converger à la fin des années 90 à travers la mise en place des classes relais qui représentent en quelque sorte à la fois des dispositifs de lutte contre les désordres scolaires et en même temps d'accompagnement vers la sortie. On pourrait dire, comme le disent d'ailleurs Mathias Millet et Daniel Thin, que les classes relais qui ont été créées officiellement pour lutter contre la déscolarisation, en fait, sont une forme de déscolarisation encadrée, d'accompagnement vers la sortie des élèves jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, et parfois même pas tout à fait, et pour faire en sorte que le passage de la prise en charge scolaire normale à une prise en charge par le marché du travail se fasse dans un espèce de sas intermédiaire qui leur permet de s'ajuster au mieux aux dispositions attendues sur le marché du travail, notamment dans le secteur des emplois précaires. Alors pour comprendre ce qui se joue à travers cela, ça faut quand même que je le dise, parce qu'on va retrouver aussi là des choses dont on a un peu entendu parler, pour comprendre dans quel contexte sont mis en place ces politiques et les dispositifs qui les ont accompagnés, je pense qu'il faut faire référence dans ce contexte des années 90 à la fois aux politiques économiques, aux politiques sociales et aux politiques pénales. C'est dans ce triptyque, et envisagé d'une façon générale, parce que d'une certaine façon, la désignation du sauvageon, du perturbateur d'école, participe d'une forme de désignation des publics à problème dans la société dans son ensemble, et on le voit bien, à la place que ça peut prendre dans une déclaration présidentielle. Et donc, il faut resituer ce dispositif spécifique dans l'ordre général de ce qui se joue à cette période-là, à savoir la montée du chômage de masse, le développement d'un certain nombre de politiques sociales d'ajustement de la main-d'œuvre, et en même temps, le développement d'un certain nombre de politiques répressives. Mais il faut aussi le référer au contexte propre de l'éducation nationale, à savoir une période qui est marquée par la massification de l'enseignement secondaire, puis de l'enseignement supérieur, une période où cette massification va rencontrer un certain nombre de difficultés, va rencontrer un certain nombre d'opposants, où les enseignants eux-mêmes vont se trouver de plus en plus confrontés à des difficultés importantes pour enseigner. Et donc, ce contexte de la massification, les limites mêmes qu'elle va rencontrer, il faut savoir qu'à partir du milieu des années 90, l'accroissement progressif des taux de scolarisation va stagner. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi que se met en place ce type de dispositif. Et assez rapidement, d'ailleurs, dès la fin des années 90, et ça s'est déployé en termes de politique publique à partir des années 2000, on voit aussi se mettre en place une redéfinition des missions de l'école publique. À savoir que, puisque on peut difficilement revenir en arrière sur le collège unique, mais qu'en même temps le collège unique pose de nombreux problèmes et qu'on n'est pas prêt à peut-être mettre en place les politiques ambitieuses qui permettraient au moins d'essayer de résoudre les problèmes proprement scolaires, eh bien on va essayer de plus en plus de définir le champ des savoirs enseignés de façon de plus en plus restrictive. On va faire en sorte qu'au niveau du dispositif scolaire central, des matières principales, on puisse dégager un ensemble à la fois de dispositifs périphériques et de matières périphériques. C'est ce qu'on voit notamment se mettre en place au collège avec le socle commun dans la loi Fillon. Donc ce contexte-là, je pense, est important à avoir en tête pour comprendre sur le côté, disons, de la main gauche, en quelque sorte, de l'éducation nationale, pour comprendre aussi ce qui se passe du côté de sa main droite. Comme je ne peux pas développer, je passe. Il y aurait quelques commentaires complémentaires à faire. Pour en venir au troisième point, il faut, quand on a fait cela, quand on a regardé comment s'est mis en place cette politique et les effets qu'elle a, on est encore dans cette description des effets proprement matériels, des effets de tri social que j'évoquais tout à l'heure pour dire qu'en même temps, il n'était pas toute l'analyse. Donc il faut, dans un troisième temps, revenir un peu sur le discours lui-même, sur la façon dont il s'est construit et sur son efficacité spécifique. Parce qu'il faut dire, du point de vue de ces politiques, c'est qu'en réalité, c'est un fonctionnement par vague. Je vous disais tout à l'heure que les dispositifs s'étaient construits peu à peu, etc. Mais en fait, on assiste à un premier lancement de l'opération à la fin des années 90, mais tout ce qui doit être fait n'est pas fait. En réalité, on a une toute petite avancée des dispositifs de signalement, des dispositifs relais, etc. Ça reflue sous l'effet de la résistance aussi, pour partie d'une partie des catégories enseignantes. Et puis, on laisse la situation stagner. Et puis, quelques années plus tard, quand il y a de nouveau des problèmes d'ordre public ou quand on se jette sur les problèmes d'ordre public pour faire oublier les problèmes qui arrivent sur d'autres terrains, on réactive ce discours. Et donc, ce qui se passe à chaque époque, et on peut faire le pronostic qu'il va se passer la même chose après le discours de Sarkozy, c'est qu'à la fois, on va voir se déployer encore un peu plus le dispositif de prise en charge de façon séparée des élèves perturbateurs, et avec cette fois-ci un discours qui s'ajoute en termes de pénalisation des familles, puisqu'il s'agit maintenant d'enlever les allocations familiales aux élèves absentéistes, mais disposition qui était d'ores et déjà prévue au milieu des années 90, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc cette fois-ci, Sarkozy nous dit, cette fois-ci, ça va avoir lieu. Mais je pense que ce n'est pas anodin de voir qu'à chaque étape, au fond, il y a des effets techniques, pratiques, de ces politiques et de ces discours qui se traduisent dans un certain nombre de pratiques, mais il y a un effet aussi du discours lui-même. Alors j'avais prévu de parler un peu de la façon dont le discours s'était construit, je ne vais pas le faire. Simplement, je peux dire que pour le comprendre, il faut à la fois voir les formes de catégorisation spontanée qui sont celles des professionnels, qui tendent toujours à chercher des indices dans les trajectoires d'élèves plutôt que d'autres indices, et donc déjà, il y a une espèce de biais dans la lecture que nous pouvons avoir spontanément de ce que sont les élèves, des caractéristiques pertinentes pour comprendre ce qu'ils font. Mais surtout, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté scientifique et institutionnel. C'est à la fin des années 90 qu'on voit surgir des emprunts aux expériences canadiennes, américaines et belges de façon massive sur des travaux tout à fait discutables en eux-mêmes, mais qui vont en quelque sorte donner une légitimité savante à la catégorie des décrocheurs, des déscolarisés, des drop-out, etc., qui vont en quelque sorte permettre cette espèce d'importation en France des dispositifs mis en place à l'étranger. Voilà. Donc, pour conclure, il me semble important de comprendre que ce discours, en réalité, a des effets propres, a une logique propre, au-delà de ces effets pratiques immédiats. Le premier effet de ce discours étant de stigmatiser les élèves en difficulté et de désigner, de requalifier en quelque sorte la question scolaire qui, d'une question relative au savoir enseigné, aux dispositifs mis en place pour enseigner valablement et pour le plus grand nombre possible, on transforme cette question scolaire en une question d'ordre scolaire. Pour revenir au dispositif sarkozien lui-même, à son langage, eh bien je pense que... j'arrive pas à me relire, c'est malheureux. Je pense que ce discours doit être compris aussi de cette double façon. Il doit être compris par les effets qu'il aura indiscutablement dans la mise en place de nouveaux dispositifs, d'une nouvelle façon de séparer la population scolaire, de séparer la population qui pose le plus de problèmes, dont je n'ai pas dit qu'en réalité elle se caractérise d'abord par des difficultés précoces, scolairement parlant, qui n'ont pas été traitées et qui se révèlent sur le tard lors de l'arrivée au collège. Donc il s'agit de traiter cette façon, ces élèves-là par l'aval, en quelque sorte, dans les dispositifs dans lesquels on va les enfermer. Donc il y aura sans doute des effets pratiques de mise à l'écart de ces élèves, mais il y a aussi sans doute un effet proprement politique qui consiste à nous dire ce qu'est la situation sociale du moment, à dire ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on est, et à dire quels sont les adversaires, en quelque sorte.